Et si tu pouvais créer l'école de tes rêves, elle ressemblerait à quoi? Comment on pourrait éduquer les enfants autrement? Bienvenue dans Soif de sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Isabelle Peloux qui a construit l'école de ses rêves. Salut Isabelle!
Bonjour!
Alors, je te présente en 10 secondes. Pour moi et pour pas mal de gens, t'es une référence en matière d'éducation alternative. T'es instite et fondatrice de l'école du Colibri au milieu des Amanins, une ferme en agroécologie cofondée par Pierre Rabhi. Et l'école du Colibri, c'est une école alternative du CP au CM2 où les enfants suivent le programme normal et en même temps apprennent à coopérer, à avoir une bonne estime de soi, à résoudre des conflits, etc. Notamment grâce au progrès des neurosciences. Et donc pour commencer, avant de créer l'école du Colibri, tu as été instite pendant 20 ans à Lyon. Ouais. Tu étais révolté par la loi du plus fort à l'école, notamment l'écran qui vole les billes des petits, et puis ça dérangeait pas grand monde. Et tu racontes aussi que avec tes collègues, vous réinventiez l'école idéale, mais sans jamais vraiment penser à en monter une un jour. Sauf que tu as eu le malheur d'en parler à ton mari, qui était voilà. Entrepreneur, et qui en plus venait de monter un projet avec Pierre Rabhi. Voilà. Tu peux nous raconter ?
Voilà, bah oui, je reviens d'une réunion avec des anciens collègues où on avait de nouveau fait l'école idéale. Et voilà, et puis j'arrive, et puis lui, il montait son projet avec Pierre Rabhi, il m'avait demandé d'intervenir sur les classes découvertes. Et puis je lui dis, donc, okay. Une école, en fait, ça sera le pied, quoi. Ça sera des classes découvertes à l'année.
Ouais.
Il me dit, mais si tu as envie de la faire ton école idéale, vas-y. Moi, j'ai cherché toutes les bonnes excuses. Non, mais ça coûte cher, faut payer. Moi, je veux pas que les parents soient mes clients. Une école hors contrat, du coup, les postes sont pas payés par l'éducation nationale. Donc, ça coûte excessivement ouais. cher. Faut trouver des salaires, etc. Moi, je sais pas chercher de l'argent, c'est un vrai métier. Il me dit, mais attends, moi, je te sers de mécène. Il n'y a pas de souci, puisque moi, placer mon argent dans l'éducation, ça m'intéresse beaucoup. Ah merde.
Ah, j'ai plus d'excuses.
J'ai plus d'excuses. Et là, ça a été très intéressant pour moi, toi, comme chemin, c'est-à-dire que j'ai pris un papier et un crayon en me disant, bon, alors ça serait quoi pour moi l'école idéale si j'écris mon projet?
Ouais.
Tout de suite, il y a eu l'histoire des enfants en difficulté. Dans mon école idéale, les enfants en difficulté sont vraiment mis à l'honneur et c'est ceux dont on va s'occuper le plus parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin. Et au lieu de leur mettre des gens incompétents pour dire qu'on s'en occupe, on va mettre les plus compétents. Donc, ça sera moi.
Dedans, est-ce que tu entends des enfants en situation de handicap ou tu entends aussi en difficulté scolaire ou
mais ça tout, parce que c'est tout. Il y a ceux en situation de handicap qui fait qu'on est obligé d'en parler. Ouais. Et après, tu as ceux qui sont en difficulté scolaire, on va dire classique, dans une classe d'âge.
Okay.
Eux, moi, je peux pas te dire un pourcentage, mais dans une classe, tu as tout le temps quelques élèves qui marchent très bien. Quelquefois, tu en as beaucoup, ça dépend des groupes. Hein. Donc, on va dire qu'il y a des cas de rue. D'enfants. Il y a des enfants qui apprennent tout seuls. Ceux-là, évidemment qu'ils ont besoin d'un enseignant. Ils ont quand même besoin de l'enseignement. Mais en gros, l'enseignant ne fait que donner à manger et faire monter les graduations de difficultés. Voilà, c'est ça le boulot de l'enseignant, de stimuler. Et pour ces enfants-là, la compétition est très intéressante. C'est-à-dire que c'est pas la compétition que le meilleur gagne, mais ça va être l'émulation. Donc, si je suis à plusieurs et qu'on est plusieurs à faire le même exercice, ça devient rigolo et ça peut être une émulation qui est pas forcément pour que le meilleur gagne. C'est une émulation pour que j'ai envie de mobiliser le meilleur de moi-même. Le problème, c'est quand le système scolaire vient rajouter comme discours et si t'es pas le premier, t'es nul. Donc ouais. En fait, premier de classe, il y en a qu'un par classe. Hein. Donc si tu mets tous les premiers de classe dans la même classe, il y en aura qu'un. Donc ça marche pas.
Effectivement, au départ, Jules Ferry a créé l'école après la défaite des Français contre les Prusses. Donc, c'était un peu pour entraîner des futurs soldats avec des cours de PS, savoir lire des cartes de géo, etc.
Ouais.
Puis, au 19e, c'était un peu plus pour avoir des bons ouvriers, donc un moyen de penser un peu standardisé, obéir, etc. Aujourd'hui, c'est un peu obsolète, notamment justement avec tous les enjeux écologiques et sociaux. Mmh. Et vous, par exemple, toutes les semaines inspiré de Frédéric Lenoir et sa fondation Sève, vous faites des ateliers philo.
Tout à fait.
Et Frédéric Lenoir, il est passé dans le podcast, justement.
D'accord.
Écoutez l'épisode, il est génial. Et il nous racontait l'impact que ça a sur les enfants. Est-ce que toi, tu as des histoires à nous raconter de comment les ateliers philo transforment tes élèves?
Ah, mais complètement. C'est-à-dire que l'atelier philo, c'est l'espace à l'école où on va ouvrir justement le monde de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est tous pas assez conscients. On regarde toujours le monde qu'à partir de nous et de notre propre histoire. Ce qui fait qu'on a une vision du monde qui est tout le temps déformée. Du coup, d'écouter les points de vue de l'autre, les questions de l'autre et le questionnement de la pensée, nous, on met la pensée au centre. Et nous, on a une qualité d'atelier philo qui est assez exceptionnelle à l'école parce qu'en fait, on prend toute l'école, les 40 enfants, CPO, CM2, tous les lundis. Ce qui fait que les petits qui arrivent sont tout de suite initiés à un niveau d'atelier philo assez élevé où ça conceptualise. Donc, je vais te donner un exemple, parce que voilà, moi, dans les perles que j'ai eues en atelier philo, l'atelier philo, d'abord, et ça, les écoles publiques en ont absolument besoin, et notre société en a absolument besoin, permettent d'aborder toutes les questions qui vont relever de la spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je parle des questions fondamentales de l'humain qui se pose toute sa vie, les mêmes questions. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de sauver l'humanité, ou est-ce qu'on est juste de passage et on s'est auto-détruit et c'est comme ça, ou est-ce qu'on pense que ça vaut la peine, quelles sont nos valeurs, toi, toutes ces questions, les premières questions d'un enfant en atelier philo, c'est pourquoi on meurt, pourquoi après on est mort, et avant d'être né j'étais où, et après quand on est mort on va où, est-ce qu'il y a quelque chose après, est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'on a une mission? C'est des questions de base que tous les humains se posent toute leur vie. Or, l'école ne répond pas à ces questions. Or, la philo, c'est un endroit où tu vas pouvoir te poser la question sans en trouver la réponse, mais en entendre plein de facettes de réponses. C'est super important pour les enfants.
Et tu racontais une autre anecdote où il y avait une engueulade à la maison et un enfant qui disait à ses parents... Mais tout va bien, c'est normal qu'on ait des points de vue complémentaires, on est différents.
Exactement. On n'est pas forcément d'accord, il n'y a pas de souci.
Ça doit être un peu désarçonnant. Ouais. Et une autre coïncidence amusante, c'est que j'ai aussi la chance d'interviewer Thomas Dansbourg le mois dernier sur comment gérer les conflits. Et ta pédagogie s'inspire beaucoup de la CNV et de son fondateur Marshall Rosenberg, de comment être en paix avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. Et par exemple, vous, quand il y a un conflit entre deux enfants, il y a un troisième enfant qui fait le médiateur, c'est ça?
C'est ça.
Ça se passe comment, du coup?
Écoute, la médiation, pour te dire rapidement, c'est un exercice d'écoute. D'accord? Donc moi, la CNV, juste pour la petite histoire, moi j'y suis venue très tard. J'y suis allée très longtemps après à la CNV parce que j'ai rencontré d'abord beaucoup de gens qui l'utilisaient très mal. Du coup, j'ai détesté cet outil. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un outil d'abus de pouvoir. On disait à l'autre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ça, c'est juste pas possible, quoi, de dire à l'autre ce qu'il a dans la tête. Oui. C'est insupportable. Et puis, moi, dans ce que j'avais appris, j'ai été formée par Unipaz aussi. Donc, c'est l'école de la paix, du Brésil.
Ah oui, au Brésil.
Ils faisaient un cycle de formation en France. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de dire qu'à l'école, j'allais travailler sur la culture de paix, être en paix avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement. C'est là où je l'ai chopé. Et donc, quand j'ai mis ça en place à l'école, il y a l'atelier philo qui fait partie de ça. On a aussi une réunion du bien vivre ensemble qui nourrit ça. Et il y a une vraie session de culture de paix. Donc là, on va apprendre, par exemple, à être des médiateurs. Et pourquoi c'est important d'apprendre à être des médiateurs? La médiation, c'est juste un espace d'écoute où il y a quelqu'un de neutre. Si on prend A et B qui sont en conflit, on va écouter A et on va reformuler jusqu'à ce qu'on soit sûr d'avoir vraiment compris ce qu'il voulait dire. On va écouter B, et en fait, tous les deux se seront écoutés sans s'entrecouper. Et souvent, ça lève les malentendus. C'est ça, une gestion de conflit. C'est hyper simple. Mais ce qui est excessivement difficile, Pierre, et je pense que toi-même, dans ta vie, c'est ça qui est difficile, c'est d'oser se dire, moi j'y arrive pas encore, toi, c'est hyper difficile, d'oser banaliser la médiation. Souvent, moi en tant qu'adulte, quand je demande une médiation, c'est que c'est déjà bien fracassé. Et c'est déjà trop tard, il faut y aller vite. Donc nous, le pari à l'école, c'est de se dire, on banalise l'outil. Parce qu'une fois que A et B, qui sont en conflit, disent on a besoin d'un médiateur, mais quelque part ils ont déjà dénoué le lien, dénoué le nœud qui était dans le lien. Ce qui est difficile, c'est d'oser dire on n'y arrive pas, on demande de l'aide à une tierce personne. C'est hyper dur de dire ça.
Sinon, tu t'engueules avec ton conjoint de dire au voisin, excuse-moi, est-ce que tu peux venir faire un peu de médiation.
Voilà, bon, le voisin, s'il est capable de le faire, toi, mais, ou un ami, ça. Toi, lui dire, est-ce que tu peux nous aider ? Là, on s'entend pas. Mais s'entendre dans le sens, on n'a pas entendu ce que dit l'autre, on traduit. Donc, on va essayer d'entendre ce que dit l'autre pour de vrai, quoi.
Il y a un autre exemple que tu dis souvent, que en tant qu'adulte et en tant que prof ou parent, on dit souvent à deux enfants qui se disputent, bon, serrez-vous la main et faites la paix, et voilà, quoi.
Voilà, comme si nous, on savait faire ça, ça me fait marrer.
C'est juste énorme. Ça.
On fait jamais ça. Voilà, et donc, et là, tu apprends à l'enfant du pour de faux. Ouais, moi qui ai beaucoup baigné dans le milieu catho, parce que quand j'étais jeune, j'ai été éduquée comme ça. Quand j'étais enfant, je voyais cette hypocrisie-là. Je me disais, mais je comprends pas. Les gens, là, ils disent qu'on s'aime tous. La culture de paix, moi, je l'ai appris à l'église. Toi, le discours, il est très clair dans les valeurs chrétiennes. Et je sortais de l'église et tout le monde faisait des grands sourires. Et après, on repartait, tout le monde disait du mal de tout le monde. Ah, t'as vu comment elle est habillée et t'as vu comment elle nous a parlé. Bah, enfin, culture de paix, ça va pas bien loin, quoi. Hein. Toi aussi, dès qu'on se quitte, on se vomit les uns sur les autres, ça va pas du tout. Donc ça, je pense que très vite, enfant, j'ai vu qu'il y avait un bug. Ouais. Dire, mais ça marche pas. C'est comme ça qu'il faut faire.
Un autre aspect, vous êtes au milieu d'une ferme en agroécologie. Ouais. Tous vos élèves mangent sur place, par exemple. Pourquoi c'est important ?
Alors pour nous, c'est vraiment important d'amener à l'enfant une cohérence sur sa journée. C'est-à-dire que pour nous, le lien à la vie, on est dépendant du vivant, on est dépendant de la nature, on est dedans, quoi. Donc, le fait de manger les légumes des amanins, ça apprend aux enfants qu'il y a des légumes de saison. Aux amanins, par exemple, ils ont l'obligation de goûter à tout. Ils ont le droit de pas aimer, mais il faut goûter. Ensuite, le pain, aux amanins, il y a interdiction de jeter du pain. Et ça, c'est un des aspects, toi, c'est très cohérent avec ce qu'on essaye de leur amener, que la planète a des ressources limitées et qu'il va falloir coopérer. Ben, coopérer, ça commence par respecter le travail de l'autre. Et nous, le pain aux amanins, on le fait de la graine jusqu'au pain. Donc, ils connaissent le cultivateur qui vient leur expliquer comment il le fait, et ils connaissent le boulanger qui a moulu la farine et qui a fait son pain.
Et du coup, t'as un peu plus de mal à le jeter.
Voilà. En 15 ans d'école, on a eu une fois à la cantine une bataille de boulettes de pain. Et cette bataille de boulettes de pain, ça a donné lieu à ce que nous, les adultes, on s'indigne. Et ensuite, on a fait venir le cultivateur et le boulanger à l'école. Mmh. On expliquait aux enfants que pour eux, c'était comme si les enfants venaient de faire un dessin et que lui, il arrivait, il froisse le dessin, il le jette par terre. Il dit, vous imaginez, donc le cultivateur, il expliquait, mais vous imaginez, moi j'ai pris du temps pour aller planter le blé, j'ai dépensé du gasoil avec le tracteur. J'ai surveillé, la nature a envoyé de l'eau, ça a pompé de l'énergie dans la terre, donc c'est juste énorme ce que ça se fait. Après, on est allé moissonner, ensuite on a stocké ça dans des silos qu'il a fallu qu'on nettoie pour pas qu'il y ait de bêtes dedans, enfin voilà, que ce soit très propre. Ensuite, on l'a pris pour faire de la farine, donc là de nouveau il y avait de l'énergie pour faire tourner le moulin. Ensuite, le cuisinier l'a pris, le boulanger l'a pris pour faire son pain, donc il l'a pétri, il l'a travaillé, ensuite il l'a fait cuire dans le four à bois. Et vous, vous le jetez par terre. Tout ça pour ce gaspillage-là. Et nous, on avait vraiment à cœur de leur apprendre la richesse des choses et la générosité du vivant. Et que du coup, l'humain a travaillé en plus. Tout ça, ça se respecte. Voilà. Donc pour nous, que la cantine fasse partie du projet, c'est un fondamental. C'est-à-dire que d'abord, ça donne aux enfants une continuité sur la journée.
Ouais.
D'adultes qui sont d'accord. Donc, imagine, pour des enfants, c'est hyper nourrissant d'avoir des adultes cohérents sur le message. Quelquefois, tu es à l'école, tu as des règles, et puis tu manges à l'école, c'est le personnel de la mairie qui est là, c'est pas pour des gens formés. Voilà, et quelquefois, à la cantine, ça crie beaucoup, les conflits sont forts. Ah, puis ils reviennent à l'école, ils ont de nouveau des adultes qui disent faut pas crier comme ça. C'est compliqué pour un enfant de rencontrer dans la même journée des adultes en fait qui ne font pas la même chose. Et nous, la cantine, se nourrir, nous le projet était tenu par Michel qui était un passionné de jardinage et par Pierre Rabhi qui est quand même très très inquiet de la question de la nourriture puisque enfant il a manqué de nourriture donc il sait ce que c'est d'avoir faim et Pierre est toujours offusqué de savoir qu'il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde. Pour lui, c'est sa quête. Comment on va pouvoir nourrir tout le monde? Donc, d'inclure le repas aux Amanins, pour nous, c'était une valeur fondamentale du projet, pour que les enfants apprennent à finir leur assiette, apprennent à ne pas gaspiller, apprennent à respecter le travail qui a été fait, à manger des légumes de saison, et puis à manger bio. Voilà, on apprend à respecter aussi le vivant, à l'animal. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'élèves qui deviennent végétariens.
C'était en lien direct avec la source.
Voilà, ils ont vu les animaux. Alors, c'est marrant parce que souvent, sur les moutons, ça le fait pas. Mais sur les vaches, ils peuvent pas.
Ah ouais.
C'est très exceptionnel qu'on mange une vache parce qu'en général, on essaie toujours de les... la plupart des mâles qu'on a, on les castre et puis ensuite, ils partent dans des fermes pédagogiques. Mais quelquefois, on en a qu'on n'arrive pas à vendre, donc on essaie de le tuer. Et là, les animaux, les enfants, ils l'ont trop connu.
Ben oui.
Et donc, il y a souvent des enfants qui disent « Non, moi, tu me dis bien, je ne veux pas la manger. » C'est même super important pour eux. Donc ça, on respecte la viande, c'est très respecté. S'ils n'en veulent pas, ils en prennent.
Ensuite, je ne sais pas si tu te souviens, enfin, probablement pas, mais on s'est rencontrés il y a 6 ans, quand je travaillais chez Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux, mais qui a aussi créé un réseau... d'école d'acteurs du changement, dont ton école fait partie. Et c'était à l'avant-première du magnifique documentaire Unis des folles sur 9 écoles alternatives réalisées par Judith Krumbach et Ashoka. Et on avait parlé d'éducation toute la soirée dans un café. Et,
d'accord.
Et tu m'avais profondément marqué. J'étais encore
je me rappelle bien cette soirée.
Parce que je trouve qu'il y a des gens qui rayonnent, je le dis souvent dans ce podcast, et je pense que tu es une des personnes les plus rayonnantes que j'ai croisées dans ma vie. Et c'était un moment où j'étais en pleine quête de sens et de me dire, en fait, ouais, c'est possible, il y a des gens qui... Ouais, tu peux trouver ta place quelque part, comme un peu la dernière pièce d'un puzzle, comme Isabelle, tu vois. Donc je voulais juste te dire merci pour ça.
Merci de ce retour. Et effectivement, c'est vraiment, quand tu vois la taille du monde, et je trouve que la crise du Covid nous apprend ça. Moi, j'ai réalisé avec le Covid comme c'était compliqué de faire une société, parce qu'il y a tellement d'avis tranchés différents, tellement d'endroits où en vrai, moi, cette crise m'aura appris à dire je ne sais pas qui je suis pour ça, ce qu'il fallait faire. Je ne sais vraiment pas. Et j'ai pas d'avis médical, donc je suis incapable de donner mon avis, donc je suis obligée de suivre un flux, puis en même temps, il y a des choses qui me choquent, et puis en même temps, il y a des choses avec lesquelles j'adhère, après, il y a mon raisonnement qui va dans un sens, qui va dans l'autre. Voilà, et de dire, ah oui, mais du coup, on peut aussi œuvrer à un endroit, et voilà, de quitter, ça va rayonner dans le monde entier. Tu vois, c'est d'être un peu plus humble, small is beautiful, quoi, donc je vais faire à un endroit, et c'est déjà beaucoup. C'est ça, faire sa part du colibri, c'est faire complètement ce que je pense bon et de le défendre complètement là où je suis et de le faire vivre jusqu'au bout, quoi. Voilà, moi, ce que j'ai aimé dans le projet des Amanins, c'est cette cohérence qu'on tenait de bout en bout. Et quand il y avait un endroit où on faisait une concession, elle était toujours parlée et transparente. On le disait aux gens qui venaient. Ah ben là, au début des Amanins, on a mis la barre très haute, on s'était dit qu'on allait faire les tuiles, les assiettes, tout, le carrelage. Voilà. Et puis, quand on a commencé à compter combien de temps ça nous prendrait, on s'est dit, non, ben là, dans 50 ans, on n'a même pas fini la première pièce, c'est pas possible. Donc, voilà, tu changes, et après, tu prends un tractopelle, et tu dégages avec un tractopelle, et t'es là, tu sais que t'es en train d'utiliser du gasoil, et c'est OK. Voilà, tu fais tes compromis pour que ça puisse avancer. Mais dans l'éducation, toi, les compromis, c'est plus compliqué, parce que ça engage des personnes, et tu peux abîmer du monde. Et moi, ce que j'ai adoré dans mes 15 années à l'école, toi, c'est vraiment, je pouvais relire mon projet d'école chaque année en me disant, je suis dans les clous, quoi. J'ai pas trahi mes valeurs.
Ouais.
Et donc ça, c'est, j'ai fait au mieux. Après, par moment, j'ai pas su faire. Par moment, j'étais fatiguée, j'ai fait moins bien. Et j'ai pas trahi. Et cette cohérence-là, je pense que c'est ça qui donne le rayonnement dont tu parles.
Et c'est ça qui est intéressant dans votre projet, c'est qu'effectivement, ça cartonne, vous avez une liste d'attente très longue et pourtant vous avez choisi de ne voilà, de pas changer d'échelle, de ne pas créer un réseau d'écoles du colibri. Ouais. Et justement, est-ce que, pour ça, j'imagine, pour faire moins de choses, mais les faire bien. Quoi.
Exactement. Et puis surtout, moi, ce dont je me méfie beaucoup en éducation, c'est, voilà, moi, je me suis inspirée des autres. Si aujourd'hui je me retrouve source d'inspiration, ben, j'en suis très flattée et tant mieux. Mais pas,
pas faire des copier-coller, quoi.
Voilà. Parce qu'un copier-coller ne peut pas fonctionner. Forcément, quand tu enseignes avec toute ta personne. Et du coup, tu vas mettre ton propre style. Et moi, mon style, il a ses limites. Voilà, mes deux collègues qui travaillent à l'école, elles ont leur propre style. Et du coup, ça enrichit. Et donc, si quelqu'un disait, je vais faire du Isabelle Peloux, ça, c'est dommage. D'abord parce qu'il n'est pas Isabelle Peloux, donc il ne pourra pas. Mais il ne va pas mettre la... il va pas développer son propre talent, ce que lui, il est et qui est génial.
Or, oui, les enfants, les élèves ne sont pas les mêmes, le contexte.
Les élèves ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas les mêmes. Et puis, dans 3 ans, les enfants sont différents chaque fois. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que tu es chaque fois étonné. À chaque fois, un enfant, tu n'avais jamais vu ça. Donc, c'est passionnant, parce que tu es tout le temps chercheur. Donc, moi, je défends beaucoup plus la posture de chercheur, la cohérence dans les valeurs et dans la, dans la façon de tenir ces valeurs face à des enfants, plutôt que dans la méthode. Le siècle dernier a été le siècle des méthodes. Méthode Freinet, méthode Montessori, méthode je sais pas qui, méthode je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est fini pour moi les méthodes. C'est bon, on a fait le tour. Aujourd'hui, les neurosciences viennent valider ce qui avait été trouvé de façon empirique, donc on peut s'appuyer dessus. Les neurosciences nous donnent d'autres mots pour mieux comprendre, donc ça rajoute de la, du savoir et de bien viser, mais ça ne résout pas le problème de base de l'éducation nationale qui est, est-ce qu'il faut mieux avoir plus de connaissances? Ça, c'est la grande bagarre de Blanquer en ce moment. Donc, oui, il faut que les profs aient un très bon niveau de maths, de français, d'histoire, de géographie pour pouvoir l'enseigner comme il faut. Non, pour pouvoir l'enseigner, il faut avoir un bon niveau de pédagogie et de didactique. C'est pas la même chose. Et en plus, il faut connaître la psychologie de l'enfant. Et en plus, il faut être un adulte droit dans ses bottes, en cohérence avec ce que je raconte à mes élèves. C'est-à-dire que je ne dis pas à mes élèves d'arrêter de crier en leur criant dessus. Je ne dis pas à mes élèves d'arrêter de se taper en les tapant. Ben voilà, c'est juste, je suis un modèle quand je suis éducateur. Et les enfants, toi, il y a plein de gens qui disent, moi, je sépare l'instruction et l'éducation. Mais l'éducation, ça, c'est mon dada, hein, c'est vraiment, à partir du moment où n'importe quel humain est assis à côté d'un enfant, qu'il le veuille ou non, il l'éduque, il sert de modèle à cet enfant. Tu prends le bus, t'es engagé. Toi, une fois, j'avais une discussion comme ça avec des Allemands, et je me moquais un peu d'eux en leur disant « Oui, alors moi, en Allemagne, j'ai repéré que quand vous deviez traverser et que le petit bonhomme était rouge, vous ne traversez pas. Or, bien souvent, il y a quand même personne à droite, personne à gauche. Vous avez l'air bête d'attendre. » Et là, ils m'ont fait une réponse. Je peux dire, j'ai été séchée. Mais Isabelle, nous, on fait ça au cas où il y a un enfant qui nous regarde. On a le souci de l'éduquer à traverser comme il faut. Donc, on attend au cas où les enfants nous regardent. Et là, je me suis sentie très bête. En me disant, mais oui, Berlin, et... là, j'ai pris ma retraite de l'école parce que j'avais le droit de la prendre pour prendre de temps avec les adultes.
Tu touches pour à un prendre. Débat existentiel quand je traverse à chaque fois, je regarde s'il y a un enfant à côté ou pas. Voilà.
Oui, c'est vraiment important. Tu vois.
Je me souviens qu'après la projection de ce film, il y a 6 ans, dans la salle, une des principales critiques... qui est assez récurrente de l'éducation alternative, c'est que bah, c'est sexy sur le papier, mais en pratique, faut des moyens, que tout le monde est pour la bienveillance, mais quand t'as 40 élèves, dont 2 qui crient, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu réponds à cette critique?
Alors, moi, j'ai pas tellement défendu les écoles alternatives, je défends plutôt la liberté pédagogique et des écoles actives. Donc, moi, j'aime mieux dire comme ça. Okay. Après, sur l'histoire privée-publique, pour moi, c'est un fondamental que ça continue d'exister. On peut pas avoir une culture d'État, tu vois. Faut absolument que ça soit ouvert et que ça bouge. Tu vois, par exemple, en Finlande, hein, clairement, le nombre d'enfants est limité tout le temps. À partir de 11 élèves, on met un deuxième enseignant.
Ouais, faut du budget, quoi.
Voilà. Maintenant, tu vois, moi, je vais certainement pas défendre Macron en long, large, en travers, parce qu'il y a plein de choses que j'aime pas du tout, ou que j'ai pas compris, ou j'ai trouvé très méprisant dans ses postures. Mais sur l'éducation, c'est lui qui a quand même lancé le dédoublement des CP-CE1 partout dans les quartiers REP. Et toi, l'autre jour, j'étais à côté de Toulouse.
Ouais.
Par exemple, Castelnaudary, à côté, ils ont un problème, c'est qu'ils ont vraiment une population en difficulté. Et je ne savais pas que c'était possible. En fait, c'est le maire qui refuse qu'ils soient en REP. Parce qu'il ne veut pas avoir une mauvaise réputation sur sa commune. Ce qui fait qu'on est dans un piège complètement délirant d'enfants qui ont des besoins spécifique, d'enseignants qui auraient besoin de beaucoup d'aide, ils en bénéficient pas parce que la municipalité ne veut pas que ça nuise à sa réputation. Tu tombes par terre en disant, mais là, c'est le monde à l'envers. Ils auraient droit à des aides, ils les refusent.
Ouais.
Et moi, en tant qu'enseignante, vraiment, l'effectif scolaire, oui, c'est un des créneaux les plus importants pour réduire l'inégalité. Mais chaque fois, à l'école, on ne lui donne pas les moyens. Par exemple, en Finlande, c'est un honneur de s'occuper des enfants en difficulté. Et donc, c'est les enseignants de fin de carrière qui ont l'honneur de s'occuper des enfants en difficulté. Parce qu'il faut être meilleur instit pour s'occuper d'enfants qui ont des problèmes cognitifs. Quand je suis débutant, forcément, je suis meilleur avec les enfants qui marchent bien. Donc, en Finlande, quand tu débutes, c'est plutôt dans des quartiers où c'est facile.
Oui.
Et plus tu as de la bouteille, plus on t'envoie dans les quartiers difficiles. En France, on fait le contraire. En France, quand tu débutes, on t'envoie dans les quartiers difficiles. Et après, quand tu as de la bouteille, tu peux enfin foutre le camp et aller dans les quartiers qui vont mieux. Voilà, donc nous, voilà, on a été très à cheval là-dessus à l'école du Colibri. Et on a eu la chance de pouvoir se payer ce luxe-là. Et effectivement, du coup, on n'a pas voulu grossir l'école. Parce qu'on allait perdre la qualité qu'on avait mis en place.
Est-ce que tu peux nous raconter un mauvais souvenir de classe ou un jour où soit tu as vu les limites de la pédagogie active ou justement une erreur que vous avez faite et comment vous l'avez surmontée?
Ouais, alors ça c'est rigolo parce que tu verras, c'est avec les enfants. En fait, chaque fois qu'en culture de paix, tu apprends aux enfants un nouvel outil,
ouais,
ils en voient les limites le lendemain matin. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Donc, par exemple, tu leur apprends à faire un message clair. D'accord? Je vais te dire clairement que là, ce que tu me fais, ça me va pas. D'accord? Et puis, les enfants apprennent à dire non à l'autre. On a le droit de dire non. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Ben, non. Mais un non fermé, en gros, derrière, ça fait du conflit. Donc, ben non, pas aujourd'hui, mais demain, si tu veux. Ah oui, d'accord. OK. Et là, ça va mieux. Et puis après, il y a des moments où tu te fais harceler par l'autre et embêter. Et donc là, il faut que tu aies un vrai non. Là, ça devient fondamentalement important. Et là, nous, on fait des exercices et donc on leur apprend aussi des postures physiques. Parce que si tu dis non sans regarder l'autre dans les yeux et en te voûtant, t'es soumis. Donc, ça fait un non qui marche pas.
Ouais.
Donc, il y a le ton du non. Toi, le non, tu peux dire non, non. Ça marche pas. C'est un non tellement négociable. Tu vois. Donc, il faut dire non. Ah oui, celui-là, il marche. Celui-là, il n'est pas négociable. Et donc, les enfants, on a fait des jeux de rôle comme ça, on apprenait à dire non à l'autre. Et voilà, on leur a appris à regarder le front, le troisième œil. Toi, tu regardes le front de l'autre et tu lui dis non, ça ne t'a pas goûté, mais tu n'as pas peur de ses yeux et lui ne voit pas que tu le regardes juste au-dessus. Donc, ça fait son effet.
Je vais faire ça.
Voilà. Il y a des scénarios, ce qui marche avec les enfants, ça marche très, très bien, ça.
Ouais.
Donc, on fait du théâtre d'impro, on fait des scénarios, ils inventent, machin, on montre, on s'entraîne. Ben, le lendemain, en cours de récréation, ça va donner les dérives suivantes. Un enfant qui va dire non à l'autre et l'autre qui va dire, là, ton non n'est vraiment pas assez convaincant. Donc, je ne l'écoute pas. Ça crée forcément une résistance à l'outil. Voilà. Et donc chaque fois après, tu es obligé de reprendre l'outil comme est-ce qu'on est d'accord pour appliquer cet outil dans l'école ou pas. Ouais. Et
oui, parce que si ça crée du non, il a dit non, mais en fait il voulait dire oui.
Voilà, et ça crée de la surenchère, mais parce qu'ils sont normaux, quoi.
Oui.
Les enfants sont normaux, ils vont jouer avec ça. Donc ah bah tiens, quel est l'écueil de l'outil que tu viens de nous apprendre.
Est-ce qu'à l'inverse, tu peux nous partager des anecdotes positives avec tes élèves?
Ah bah oui, les anecdotes positives, d'avoir 5 niveaux. Alors ça, franchement, moi j'y suis allée par obligation, hein. Je pensais pas du tout que ça serait bien. Mais c'est génial. Il y a énormément de disciplines qu'on n'a pas besoin de faire parce que ça s'autodiscipline entre enfants puisqu'ils sont pas tous du même âge. En fait, c'est une erreur de mettre que des enfants du même âge ensemble. Ça crée une problématique d'âge. C'est comme si tu mettais des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés. Ils sont pleins du même âge avec le même développement affectif. Ça fait des étincelles. Alors, quand on met des petits avec des grands, les grands jouent aux grands frères, les petits suivent les grands frères, ça fait des espèces d'interactions de fraternité, de sororité qui marchent bien. Donc ça, déjà, tu y gagnes largement. Ensuite, ça te permet de jongler avec un enfant. Par moment, il sera avec les plus grands, par moment avec les plus petits, suivant où il en est. Donc, c'est hyper simple. C'est pas blessant pour lui, parce que ça change toute la journée, donc il s'en fout. Voilà. Et puis, l'autre côté incroyable du multiple niveau, c'est que tu n'as plus besoin de poser ton cadre en début d'année scolaire. Or, moi, quand j'étais enseignante et que j'avais qu'un niveau, je détestais l'école, en gros, jusqu'à la Toussaint. Tous les ans, je râlais. Parce que il fallait que j'apprivoise 28 élèves Quand je dis apprivoiser, c'est eux aussi qui m'apprivoisent. Ouais. Ça veut dire que moi, j'apprends à les connaître, eux apprennent à me connaître. Voilà. Avec du multiple niveau, d'abord, tu accompagnes un enfant sur 3 ans ou sur 4 ans ou sur 5 ans. Donc, tu n'es plus inscrit dans un temps de 1 an. Ça change tout. Tu te projettes sur 5 ans, donc tu te dis, oui, bon, bah, si ça, ok, je me rappellerai l'année prochaine que ça, il ne sait pas faire, et là, je pourrais l'accompagner plus loin.
Tu as intérêt à aimer ton instinct, quoi. Mais...
voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on soit plusieurs à l'école. Toi, c'était ça, moi, qui m'inquiétait. Je disais, mais effectivement, moi, je peux avoir un élève qui me sort par les trous de nez, et inversement aussi. Mm. C'est impossible que moi, Isabelle Pelouche, plaise à tout le monde. Et pour un enfant, c'est vachement dur s'il doit me supporter 5 ans. C'est pour ça que c'était important d'être à plusieurs. Donc nous, on a toujours été plusieurs dans la classe, et notamment avec les services civiques qui changeaient chaque année. Et donc les services civiques, c'était une vraie bouffée d'air. Une année, il y en a un qui était passionné de foot, l'année suivante d'après, il était passionné d'art plastique, celui d'après, il était passionné de sciences. Donc chacun amenait sa spécificité, ça faisait un renouvellement. Et puis pour finir sur les avantages du multiple niveau, quand tu arrives à la rentrée, moi j'ai qu'un cinquième de l'école qui est parti. Donc j'ai à peu près 8 élèves chaque année qui sont sortants. Ce qui fait que j'ai 8 nouveaux. Apprivoiser seulement 8 nouveaux, ça va assez vite. Et eux vont s'apprivoiser à nous, les adultes, dans la même vitesse. C'est beaucoup plus rapide. Oui. Et surtout, eux vont apprendre par imitation des 4 autres niveaux qui sont là et qui connaissent déjà les règles. Oui. Donc, ils arrivent dans un lieu où tout le monde applique déjà ses règles, donc ils les apprennent par imitation. Donc, toi, en tant qu'enseignant, tu n'as plus à poser le cadre. Et ça, c'est trop jouissif. Parce que c'est le
Tu voilà, l'as évoqué, donc. Tu t'appuies sur plein de pédagogies, notamment oui. Freiné, Montessori, etc.
Beaucoup Philippe Mérieux, okay. Dans les grands pédagogues qui m'ont inspiré. Ouais.
Et c'est vrai que ces dernières années, bah, les neurosciences ont fait énormément de progrès et ont validé pas mal de ces outils. Est-ce que toi, il y a une étude ou une avancée qui t'a particulièrement marqué pendant ta carrière, qui peut-être a confirmé une intuition ou qui, au contraire, t'a amené à te remettre en question?
Oui, écoute, moi, c'est une formation que j'ai faite assez tôt dans ma carrière, hein, qui s'appelait la gestion mentale d'un monsieur qui s'appelle Antoine de la Garandrie. Là aussi, c'est complètement validé aujourd'hui par les neurosciences. Des trucs qui ont été assez banalisés, qu'on a une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique.
Ok.
Et donc, moi, c'est une expérience, et c'est des expériences que tu fais un jour, puis tu n'enseignes plus jamais derrière. Pareil. Ça a été vraiment un tournant dans ma carrière. Ça a été, on était toute l'équipe enseignante, donc on était très adultes. On nous a fait mémoriser, il fallait qu'on soit capable de répéter 7 images et 7 mots. Et une fois qu'on était capable, on retournait la feuille. Et après, l'animatrice nous a demandé à chacun comment on avait fait. Oui. 13 personnes, 13 manières différentes. Mais moi, ça a été la révélation du siècle. Je croyais que mes élèves apprenaient comme moi. J'avais pas compris que dans mon monde à moi, c'est comme ça que j'apprenais. Et que le monde de l'autre était pas le même que le mien. Du coup, les deux phrases que j'ai appris à poser, et du coup, tu peux retrouver ça en gestion mentale, tu peux le retrouver dans toutes les pédagogies, tu peux le retrouver dans toutes les gestions de conflits, dans toute la culture de paix. Quand je rencontre quelqu'un, je vais lui demander, c'est comment dans ton monde? Pour toi, c'est comment? Et du coup, je vais apprendre à l'enfant, t'es en train d'apprendre. Moi, ce qui va m'aider pour t'aider, c'est formule des demandes. Dis-moi de quoi t'as besoin, parce que je peux pas le deviner. En fait, t'es une boîte noire pour moi. Je sais pas ce qu'il y a
dans. C'est le seul truc qui est obligatoire dans tes classes, ça, c'est d'oser demander.
Voilà, le truc obligatoire, c'est qu'il faut oser demander.
Je voulais te poser une question qu'on a peut-être un petit peu abordée avec le nom, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de témoignages ces derniers mois d'inceste et de violences sexuelles sur des enfants qui sont faites bien plus fréquentes que sur des adultes. Comment est-ce que vous aidez les enfants soit à se protéger, soit à les protéger de ces violences?
Ben déjà, on en parle. Donc ça, voilà, et on travaille beaucoup sur mon corps, c'est mon corps, et de distinguer, voilà, quand telle personne, par exemple, quand ma maman me brosse les cheveux ou me touche l'épaule, je sais pas quoi, ben là c'est bon, et puis il y a le moment où ça l'est plus. Du coup, comment j'ose dire non, ouais. Et si j'ose pas dire non, comment je vais quand même aller le raconter à quelqu'un, et si j'ose pas le raconter à quelqu'un, bien me rappeler que c'est pas de ma faute. C'est surtout croire la parole de l'enfant. Après, on va avoir 2% d'enfants qui vont raconter des conneries. Mais c'est que 2%. Quoi. Donc, on va pas arrêter de les écouter sous prétexte qu'on a 2% qui trichent. On a 98%, ils avaient subi. Donc, il faut absolument entendre. absolument entendre. Et là, on va faire le pari que vaut mieux se tromper deux fois que 98 fois, quoi. Mmh. Voilà, donc on va les écouter, on va les croire, on va les protéger. Et c'est, pour moi, la parole en ce moment se libère, ça c'est formidable. Parce que moi, le nombre d'enfants, de personnes que moi j'ai eu la chance de pas être abusée, tu vois, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont été. Et quand t'en parles avec eux, le plus difficile, c'est que forcément l'enfant étant centré sur lui-même, il croit qu'il est responsable d'avoir attiré l'autre. Il croit que ça vient de lui.
Oui.
Et donc il est en plus coupable. Toi, ça serait sur le gâteau, quoi. Ça sera en plus de sa faute, alors que c'est un adulte qui n'a pas su gérer son désir. Et qu'un adulte qui ne sait pas gérer son désir, aujourd'hui, le fait qu'on en parle beaucoup, ça va forcément l'aider à mieux le gérer. Parce que c'est un sujet tabou. Et donc, même l'adulte, toi, qui avait une pulsion, il était hyper coupable de sa pulsion. Donc, il disait toujours, ça va s'arrêter, ça, je le ferai plus. Là, tant mieux que le scandale soit sorti dans l'église. C'est un très beau cadeau de la vie. Toi, faut absolument voir ça comme une grande chance. Parce que les enfants, plus nous, on va en parler, plus ils vont nous le dire quand il y a un truc qui va pas. Et nous, on essaye de dire aux parents, votre enfant, faut le questionner une fois par semaine. Est-ce que cette semaine, tu as quelqu'un qui t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé et dont tu voudrais me parler pour désamorcer tout le temps et qu'il puisse dire, ben, j'ai pas aimé quand la maîtresse m'a dit ça, ou j'ai pas aimé quand on m'a touché là, ou j'ai pas aimé quand c'est qu'on puisse parler de ça. Et de banaliser complètement ce discours. Voilà. Mais comme on sait que ça se passe principalement en famille, hein, c'est hyper chaud.
Oui, c'est les proches 9 fois sur 10. Ouais. Ouais. En préparant l'interview, je trouvais que tu avais l'air très sûr de toi et ta vision de l'éducation, et tant mieux. Mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des remises en question aussi. Est-ce que c'est quoi soit ta dernière grosse remise en question ou une des grandes remises en question de ta vie?
Alors, là, sans y avoir réfléchi, qu'est-ce qui me vient? Moi, un des trucs que j'ai vraiment dû apprendre, c'est à ne pas avoir peur de faire ce que je pensais bon,
oui,
quitte à me tromper. Et à le montrer. Là, c'est paradoxal, hein, mais moi, je vivais très bien caché. Hein. Voilà. Et c'est grâce à Michel que j'étais obligée de me montrer. Il m'a dit, non, mais là, ce que tu fais dans ton école, c'est bien, il faut que tu en parles. Oh, non, 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 c'est bon. Parce que moi, j'avais hyper peur de la critique.
Oui.
J'avais très peur que d'autres enseignantes, au début, je me faisais beaucoup dégommer, parce que j'avais monté une école, donc j'étais mal vue des enseignants du public, mal vue des enseignants de l'école privée catho. J'avais quitté pour monter ma propre école. Et dans les milieux écolos alternatifs, j'étais pas bien vue parce que j'étais instite. Donc j'allais forcément faire une école classique. Et moi, ça, c'est un truc, toi, qui pouvait me faire arrêter. Tellement je trouvais ça difficile que des gens critiquent ce que je faisais ou me disent « oui, bah, c'est un peu facile ».
Alors que tu savais que c'était juste, quoi.
Ben oui, mais quand même, ça me...
Ouais, ouais, ouais.
Ça me fragilisait beaucoup et j'ai eu la chance... Michel, lui, ça lui posait pas problème. Il me disait, mais on s'en fout de ce que les autres y pensent. Et moi, pas du tout. Isabelle, si tu penses que c'est bien. Et lui, je voyais bien avec la faculté qu'il avait à, s'il trouvait que c'était bien, il y allait, quoi. Donc, ça m'a appris à faire ça. À accepter que quand je fais une conférence, oui, il y aurait des gens pas d'accord avec mes propos. Et aujourd'hui, je peux vraiment me dire que c'est une vraie chance. En fait, qu'on soit pas d'accord, c'est juste génial. La coopération avec des gens d'accord, c'est rasoir. En fait, ce qui est bon, c'est qu'on soit pas d'accord, parce que dans le fond, on est des humains. Donc, on a tous raison. On a tous la même légitimité à être sur cette planète. Du coup, si on est en désaccord, ben, du coup, ça va nous permettre d'améliorer notre façon de vivre ensemble. Et donc, nos désaccords sont, au contraire, une chance. Et moi, une fois que tu l'as compris déjà pour toi dans ta propre vie, et qu'après, tu arrives à l'avoir en tête quand tu rencontres des gens, voilà, toi, la crise du coronavirus, il faut qu'on la voie comme une chance, on n'a pas été d'accord. Et du coup, ce désaccord, il dit quoi? Parce qu'une démocratie, elle est toujours sur ce fil tendu. On va trouver une position du milieu qui tient compte des besoins des opposés. Et on voit à quel point on ne sait pas faire. Hein, ça, c'est... Mais c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire, ben, voilà, alors on l'a vécu très fort, toi, sur des règles comme... la loi sur l'avortement, ou bien le mariage pour tous, où on a vu que ça venait ébranler chez des gens des convictions. Et du coup, écoutons-nous. Et pourquoi ça vous fait si peur? Parce que c'est passionnant d'entendre celui qui a peur. plutôt chez les Indiens Kogi, qui sont les Indiens d'Amérique centrale, hein. Peuple racine, ils étaient venus à l'école et c'était le moment des gilets jaunes où tous les ronds-points brûlaient là au mois de novembre. Okay. Et les enfants leur ont demandé comment ils géraient les conflits chez eux, dans leur pays. Et eux, ils disent, mais nous, quand il y a des gens qui sont en colère, comme vous, par exemple, vos gilets jaunes, en ce moment, nous, on arrête toute activité. Et on leur dit, merci pour votre colère, parce que votre colère est en train de nous dire que notre système social ne marche pas. Sinon, vous ne seriez pas en colère. Maintenant, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous met en colère? Et on va changer quelque chose ensemble. Ouais. Donc là, on se disait, ah oui, dire merci à ceux qui mettent le bazar, là, on n'y est pas tout à fait.
Comment est-ce que ton rapport au sens, il a évolué avec le temps?
Je crois que la spiritualité a pris de plus en plus de place dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu à quel point je maîtrisais quand même pas grand-chose. Et que si j'écoute là où la vie, la puissance de vie m'emmène, j'y gagne. Oui. Et voilà, c'est ce chemin-là qui a été fort difficile pour moi, puisque donc Michel, dont je parle beaucoup, est décédé en 2012 brutalement d'une crise cardiaque. Et donc je me suis retrouvée seule à l'école du Colibri et aux Amanins, et il a fallu continuer l'histoire, et c'était vraiment... J'étais révoltée contre la vie en me disant, mais c'est même pas la peine de vivre pour vivre pareil, autant pas du tout naître. Voilà, j'étais très en colère. Et puis, un chemin faisant, j'ai pu voir à quel point la vie était là à m'indiquer le chemin, à me protéger, à prendre soin de moi, malgré ce que je vivais. Enfin, ouais. C'était juste scotchant si j'acceptais de regarder comme ça. Et puis, comme aucun système de défense ne fonctionne quand tu vis un drame pareil, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas attaquer. Il n'y a rien à faire d'autre que de vivre ce que tu as à vivre. Tu te rends compte que là, la vie t'accompagne et que la puissance de vie, elle est là pour vraiment... voilà, elle est bonne, quoi. Je ne peux que constater ça. Et ça m'aide beaucoup quand je travaille avec des adultes ou avec des enfants, de faire confiance à cette ouais. partie de moi qui sait mieux que moi. Mmh. Ouais, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un des bénéfices de l'âge. Voilà, j'ai bientôt 60 ans et je pense qu'avec l'âge, il y a une tranquillité qui s'installe et est bonne à vivre, vraiment.
Tu fais plus confiance à la vie et au futur, quoi.
Oui, et puis tu te poses moins de questions, toi, des questions existentielles que tu as, à l'âge que toi, tu dois avoir. moi, c'est pas que j'ai trouvé la réponse. Mais je crois que j'ai compris qu'il y en a qui n'étaient pas tant que ça existentiels.
Oui.
Alors que jeune, pour moi, c'était très fort, tout le monde devait, toi, la culture de paix. Tu vois, par exemple, tu parlais de ce qui a évolué dans ma vie. Moi, si j'ai tant cherché du côté de la culture de paix, c'est très simple, Pierre. Je cherchais la formule magique pour dire à un enfant ou à un adulte que ce qu'il faisait, ça n'allait pas et qu'il soit content. Faut pas fâcher contre moi. Et puis, voilà, j'ai compris que ça marchait pas comme ça. En fait, que l'autre soit fâché contre moi, si ça a de l'effet sur moi, c'est que je m'aime pas assez moi. Si je suis pas en train de chercher l'amour chez l'autre pour qu'il me dise que je suis aimable, mais si je suis à peu près sûre que je suis aimable moi toute seule parce que la vie m'aime, je suis aimée pleinement pour ce que je suis, j'ai moins besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Donc quand quelqu'un me dit je suis pas d'accord avec toi, d'accord, ok. Et c'est quoi qui... C'est où que t'es pas en accord? Parce que ça va peut-être m'enrichir. Ça va peut-être m'agrandir mon point de vue, comme fait l'atelier philo dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais, l'atelier philo me fait poser des questions que je ne me serais jamais posées. Du coup, j'ai mon champ d'ouverture au monde s'élargit, donc je suis de plus en plus tolérant.
Pour toi, en quoi est-ce que votre école, elle est différente?
Alors, notre école, elle est différente parce qu'on a fait une école inclusive. C'est-à-dire que sur 40 élèves, on en a 6 qui seraient normalement en ULIS. Donc ULIS, c'est une classe spécialisée pour enfants porteurs de handicap. Et nous, okay. on a décidé, comme on était très privilégiés avec une école dans la nature, au milieu d'une ferme, on s'est dit qu'il fallait qu'on favorise les enfants porteurs de handicap dans la mesure où dans l'éducation nationale, j'ai toujours trouvé que ça n'était pas eux qui étaient mis à l'honneur. Et en fait, ouais. je suis enseignante pour les enfants en difficulté, pas pour les enfants qui vont très bien, qui en gros n'ont pas vraiment besoin des enseignants. Voilà, donc l'idée, ça a été... de mettre ça au cœur du projet Et le cadeau de ce projet-là, c'est qu'en fait, les enfants en difficulté nous obligent à parler de leurs différences pour que les autres enfants puissent les accompagner, les aider, les accueillir en récréation. Et le fait qu'on parle de leurs différences nous permet de parler des différences de tous les enfants dits entre guillemets « normaux » qui, en fait, ont tous des handicaps. Donc, à l'école du Colibri, on part du principe qu'on est tous handicapés. Voilà, donc ça change un peu la donne. Voilà.
Ce qui est un peu vrai.
Ben, ce qui est vrai, oui, je te le confirme. On a tous des parties avec lesquelles on a plus de mal que d'autres.
Oui.
Et donc, ces enfants-là nous aident à tout simplement à en parler et du coup à parler de notre vulnérabilité. Et dans la coopération, c'est un des aspects très importants de la coopération.
Oui, justement, l'école, c'est plus souvent connu pour être un peu la loi du plus fort et voilà, être premier de la classe, etc., avoir les meilleures notes. Il y a pas mal de compétitions et tout est assez individuel. Toi, tu as notamment écrit un livre là-dessus, effectivement.
Ouais.
En quoi est-ce que votre vision est centrée autour de la coopération ?
Alors, moi, j'étais déjà enseignante avant, et puis j'avais fait en plus une formation en psycho.
Ouais.
Et les deux ensemble faisaient que je m'étais beaucoup attachée à ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. au socio-constructivisme, toi je te sors des gros mots de pédagogue,
ouais.
Qui est en fait que je n'apprends bien que si je suis face à un autre, parce que l'autre, quand je lui explique ce que je pense avoir compris, avec ses questions, ouais. Va m'aider à formuler ma pensée correctement et à la construire correctement.
Ouais,
et en fait, je ne peux pas apprendre tout seul. Si j'apprends tout seul, je vais faire aujourd'hui, ça s'appelle des biais décisionnels. Tu vois, je vais construire des raccourcis dans mon cerveau parce que j'ai pas l'esprit critique sur ma propre pensée. Donc, j'ai besoin de l'autre comme miroir pour qu'il me renvoie ma parole et me dise, mais là, je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Ou là, je suis pas d'accord. Ou là, c'est bizarre comme tu dis ça. Ou voilà.
Ouais.
Précise-moi ta pensée. Et du coup, ça va m'obliger à sortir des biais répétitifs. Là où, quand j'étais petit, on m'avait dit ça. Du coup, je croyais que le monde entier faisait comme ça.
Mmh.
Voilà. Et des biais comme ça, on en a plein. Et plus on va coopérer, plus l'enfant va... Au lieu que ce soit... Enfin, la base de cet enseignement-là, c'est du Freinet. C'est du Freinet, du Crowley, du Houry. C'est-à-dire qu'on va mettre l'enfant en recherche. Une fois qu'il a cherché, il va mettre son savoir avec deux autres enfants. L'idéal, c'est à trois. Et là, ils vont échanger sur comment ils ont fait pour trouver la réponse. Non pas quelle est la réponse, mais comment ils ont fait pour trouver la réponse. Et en expliquant à l'autre comment j'ai fait pour trouver ma réponse, soit tout seul, je vois que ben non, mais ça marche pas en fait quand je te l'explique. Soit au contraire, ah ben ça vient vraiment m'aider à comprendre ce que j'avais fait de façon un peu intuitive. Puisque je suis obligée de le mettre en mots pour te l'expliquer, j'apprends.
Ouais.
Donc, au lieu que ce soit l'enseignant qui soit toujours en train d'apprendre, parce que l'enseignant n'arrête pas de réexpliquer la règle aux enfants,
ouais.
On inverse la classe. L'enseignant est celui qui crée la situation de recherche. Les enfants se mettent en chercheurs. Ils vont confronter leur façon d'expliquer les choses. Et s'ils n'y arrivent pas, ils viennent demander l'aide de l'enseignant. Et ce qui est très déroutant, c'est que la plupart du temps, ils y arrivent.
Ouais,
et ce temps libéré pour l'enseignant lui permet vraiment de s'occuper des enfants qui, eux, n'arriveraient pas à faire ça. Et Pierre Rabhi nous a vraiment ramené sa philosophie, toi, sur on est sur une planète aux ressources limitées, on est de plus en plus nombreux, on n'aura pas le choix que d'être solidaires. Sinon, on va tous mourir. Bon, ça, il y en a qui n'ont pas encore compris, mais pour moi, c'est une évidence hein, aujourd'hui. Et là, il y a 15 ans, toi, quand on a monté l'école, on s'est dit, mais nous, les adultes, on en bave avec la coopération, en fait. On ne sait pas faire. Donc, j'ai pris les outils que moi, j'apprenais en tant qu'adulte et je les ai adaptés aux enfants en disant, ben, on va leur apprendre tout de suite. L'effet est tout à fait positif, hein, c'est-à-dire que les enfants, ces outils-là, ils les apprennent à toute vitesse, comme d'habitude. Néanmoins, moi, quand ils partent au collège après et quand ils grandissent, quelque part, ils les connaissent, ils les ont à disposition, mais ils sont entourés de gens qui ne les utilisent pas. Du coup, c'est super dur de les utiliser tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on interviewe des enfants qui sont partis de l'école, toi, il y a une journaliste qui a fait ce travail-là, elle est allée interviewer ceux qui avaient fait leurs 5 ans à l'école et qui avaient une vingtaine d'années en leur demandant « Mais de quoi vous vous rappelez à l'école du Colibri? Qu'est-ce qui vous a marqué ?» Et tous disent « À l'école du Colibri, ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème dans le lien, il faut s'en occuper. Et là, je me dis déjà, c'est énorme. Si des enfants savent que quand il y a un problème dans le lien, ben, en fait, il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème en se disant ça va passer, pas de soucis.
Oui, parce que ça, beaucoup d'adultes, ça peut faire.
Et voilà, et nous, adultes, on fait beaucoup ça. Toi. On se dit, oh, ben, allez, je... même pas grave, même pas mal, pas si important, ça va passer. Puis on se rend compte que ça ne passe pas.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, tu vois, mon souci, c'est plutôt d'aller former les adultes. Parce que si les adultes ont des postures de coopération dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle et sociétale d'urgence maintenant, bah, du coup, ils vont forcément le faire. Et les enfants apprenant par imitation, naturellement, ils vont le faire.
Voilà. Okay.
Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut éduquer les enfants, mais il faut aussi que ça soit cohérent avec les adultes qui sont autour. Sinon, ça annule l'apprentissage.
Merci beaucoup Isabelle. Si tu veux d'épisodes avec des humains réunants comme Isabelle, eh ben, je te conseille les épisodes dont on a parlé avec Thomas Dansbourg et Frédéric Lenoir. Abonne-toi et parle de ce podcast à un ami qui a envie de réinventer l'école. Ça m'aide énormément. Salut Isabelle, salut tout le monde.